notre série de prédications dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 8. C'est à la page 694. Et c'est le passage qui commence au verset 31. Verset 31. Mais avant de lire, je vais prier. Merci à notre bon Père Céleste de ce que tes paroles sont esprit et vie, les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. Père, nous avons besoin de tes paroles ce matin. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais nous avons besoin de ces paroles vivifiantes. C'est le pain dont nous avons besoin cette semaine, aujourd'hui. Et Père, nous allons te demander de nous faire paître par cette parole, de nous faire grandir en toi, dans nous de te connaître davantage, et Père, nous allons te demander de changer nos cœurs, pour que nous puissions te voir, t'aimer, te servir davantage. Aide-moi aussi à annoncer cette parole, ta Bible, de manière fidèle. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Verset 31. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? En vérité, je vous le dis, la répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il... il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors ce matin, à notre passage, il parle de deux choses, deux concepts, de la liberté, et aussi de la paternité. La liberté et la paternité. Et Jésus dit que la première, la liberté, découle de la deuxième, de la paternité. Ces deux choses-là sont inextricablement liées. Alors, nous avons tous eu un père et une mère, n'est-ce pas? Alors, nous n'avons pas tous, on n'a pas forcément connu nos pères ou nos mères, mais biologiquement parlant, en tout cas pour l'instant, nous pouvons tous dire que nous sommes le fils ou la fille de quelqu'un, d'un père et d'une mère. Alors, vu d'ici bas, je pense que la vie peut sembler, elle peut sembler être une loterie gigantesque. Personne n'a choisi ses parents. Certains ont eu de bons parents, certains ont eu de mauvais parents. Certains ont eu des parents richissimes, d'autres ont eu des parents très pauvres. Certains ont eu des parents très intelligents, très cultivés. D'autres ont eu des parents plutôt simples ou peu instruits. Alors, personne n'a choisi ses parents. Et c'est pour ça que la fierté humaine, la fierté en nos parents, peut-être en nos milieux sociaux ou dans cette situation matérielle, familiale, est toujours si grotesque. Alors, certains parents ont pu ouvrir toutes les portes pour leurs enfants. La porte de l'éducation, la porte de l'ascenseur social, la porte des richesses, la porte à la carrière. Mais d'autres enfants n'ont pas eu ces privilèges. Alors, c'est vrai, on vit dans une société où quand même, par le travail, on peut changer nos circonstances. Mais en même temps, c'est pas aussi simple que ça. La liberté de faire ça, de changer de milieu, n'est pas toujours à portée de main. Et donc, la paternité et la liberté vont souvent de pair. Et Jésus utilise ces concepts pour nous parler ce matin de notre situation devant Dieu. Jésus veut nous parler de notre condition humaine, notre condition naturelle sans Dieu. Il va parler de manière très cash, de manière très directe. En fait, c'est limite offusquant ce que Jésus dit, mais en fait, vous savez, il le fait par amour. Parce qu'il veut qu'on soit archi-lucide sur nous-mêmes. Et à force d'être très lucide sur nous-mêmes, nous allons voir à quel point Jésus, lui, est bon. Et combien Jésus est tout ce dont nous avons besoin. Le premier point ce matin, c'est, je dirais, le point central de notre passage, c'est ce qui est marqué, c'est le premier point, la paternité de l'esclavage, ou ce point où Jésus dit, vous n'êtes vraiment pas libre, vous n'êtes vraiment pas libre, vous n'êtes pas un peuple libre. Est-ce que vous voyez comment Jésus répond aux foules, comment les foules répondent aussi à ce que Jésus dit au verset 31 et 32. Jésus a parlé parle ici de ceux qui semblent avoir mis la confiance en Jésus. Et ensuite, Jésus dit à ces personnes-là qui ne sont pas libres, il leur dit qu'il peut les rendre libres. Mais tout de suite, la réponse est forte, profondément offusquée. Les foules affirment qu'elles sont déjà libres. La liberté, c'est un des thèmes... Je dirais, dans une société qu'on aime bien, c'est un thème qu'on chérit. On veut être libre. On veut être vraiment libre. La liberté, c'est une des valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. On a eu la Révolution française pour vivre libre. Imaginez, par exemple, qu'un beau jour, le président des États-Unis, Obama, décide de faire une déclaration solennelle au peuple français. Peuple de France, vous avez la liberté. Moi, je peux vous rendre vraiment libre. Et la réponse ne tarderait pas. Quoi ? Libéré par vous ? C'est n'importe quoi. Nous sommes déjà libres. Nous sommes un pays démocrate. Nous avons les droits de l'homme. Qui êtes-vous pour parler de cette manière-là ? Quelle impudence ! Au verset 33, nous lisons, ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Alors dans l'histoire des Israélites, il y a eu quand même des moments d'esclavage en Égypte. Mais peut-être cette réponse évoque le fait que malgré ces moments d'esclavage physique, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu. En tout cas, la réponse est claire. C'est la paternité qui fait que pour eux, ils ne sont pas des esclaves. Leur ancêtre, Abraham, était un homme libre, et donc eux aussi. Par ailleurs, ce que vous voyez là où ils mettent la confiance, c'est en leur filiation, en leur ancêtre, en leur arrière-plan religieux. Bon, ce passage parle d'abord, je pense, au peuple juif. Mais si c'est vrai pour le peuple de Dieu, c'est d'autant plus vrai pour nous qui n'avons pas cette lignée, cet héritage. Et nous aussi, on peut être insensible aux paroles de Jésus. On peut même nous en offusquer, parce qu'on se croit déjà libre. On peut dire, je n'ai pas besoin de l'évangile, je n'ai pas besoin de tout ça, je suis déjà libre. Je t'ai baptisé dans l'église catholique, ça va. Je t'ai élevé dans une famille protestante, ça va quoi. Ou j'essaie de suivre les règles du Coran. Ou je suis un citoyen respectable quand même. Je n'ai pas besoin de votre liberté. En fait, je suis déjà très bien. Je suis déjà libre. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre? Mais la réponse de Jésus est très claire. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Jésus dit que notre maître, c'est le péché. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Et nous avons tous péché. Et le péché nous a rendus à l'état d'esclaves. Nos actions, nos paroles, nos pensées révèlent notre addiction à notre rébellion à l'égard de Dieu. Et cette addiction ne vient pas de nulle part, mais de notre Père. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui a été écrit au 19e siècle par un ex-esclave. Qui a connu la proclamation d'émancipation à la suite de la guerre civile aux États-Unis. Il a grandi esclave et à un moment donné, il a été libéré avec sa mère dans sa jeunesse. C'est vraiment un récit fascinant. Alors, ce qui était pervers dans cet esclavage, en fait, il y avait beaucoup de choses perverses, mais une chose était le fait que beaucoup d'esclaves étaient finalement les enfants du propriétaire. Il y avait beaucoup d'abus sexuels. Et du coup, ces enfants étaient les esclaves de leur propre père. Leur père les gardait dans cet état. Ils travaillaient dans la maison, mais ils n'étaient pas de la maison. Ils avaient des pères cruels. Et Jésus dit ici que les Juifs ont un mauvais père. Au verset 38, Jésus dit... qu'il dit ce qu'il a vu dans la présence de son père à lui, mais que les Juifs font ce qu'ils ont entendu auprès de leur père. Ils protestent en disant que leur père est un homme libre, Abraham. Mais on voit que Jésus ne fait aucun compromis. Leur père n'est pas Abraham parce qu'il n'imite pas Abraham. On peut être fier de notre lignée, de notre héritage culturel, familial, ethnique. Mais notre vraie paternité se voit. Elle se voit dans nos actions. C'est un peu comme le dicton, il est bien le fils de son père. C'est-à-dire, il fait exactement comme son père. C'est pour moi-même, sans le savoir, j'imite mon père parce que j'ai grandi à côté de lui, donc, et inconsciemment, je commence à faire ce qu'il fait. J'ai vu une photo cette semaine de mon neveu, il était à côté de mon beau-frère, et ils avaient tous les deux le même sourire, c'était sympa de voir exactement le même type de sourire. C'était beau à voir, mais ici, c'est pas beau à voir, loin s'en faut. Jésus dit que c'est notre attitude envers lui, envers Jésus, qui dévoile notre paternité. Dans l'évangile de Jean, nous avons ce thème de la lumière. Jésus vient dans le monde et il est la lumière du monde et il brille. Et en fait, sa lumière nous démasque. Elle dévoile qui nous sommes. Elle dévoile finalement notre attitude envers Dieu en dévoilant notre attitude envers Jésus. Abraham, lui, a cru les promesses de Dieu concernant Jésus. On va le voir dans le passage suivant la semaine prochaine. Il a obéi. Mais ici, on voit que les Juifs ne sont pas spirituellement parlant des ancêtres, des enfants d'Abraham. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reçoivent pas les paroles de Jésus. Au contraire, ils veulent se débarrasser de lui. Et Jésus dit ces paroles à ceux qui semblent avoir mis leur confiance en lui. C'est ce qu'on voit au début du passage. Mais à la fin de ce chapitre, on va voir que même ces personnes-là, même ceux qui semblaient avoir la foi en Jésus, ont pris des pierres pour essayer de le lapider. Ils ne sont pas du tout comme Abraham. Et ces paroles sont tout aussi vraies aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, physiquement, Jésus n'est pas en Israël. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces paroles? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Notre attitude envers Jésus révèle notre paternité spirituelle. Alors, les paroles de Jésus ne sont pas très confortables, n'est-ce pas? Mais si ce qu'il a dit est dérangeant, ce qu'il va dire par la suite est encore plus dérangeant. Jésus leur dit, verset 41, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Mais de quel Père est-ce qu'il parle au juste? Les Juifs sont touchés au vif et ils protestent encore une fois en disant, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Encore une fois, ils mettent en avant leur paternité. Ils sont libres, ils n'ont pas besoin de cette liberté de Jésus. Parce que selon eux, ils sont déjà des enfants de Dieu. Encore une fois, la vraie paternité se voit dans leur attitude envers Jésus. Jésus leur dit, « Si Dieu est-il votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » C'est très fort, n'est-ce pas? Notre paternité se voit dans notre attitude envers Jésus. Est-ce qu'on aime Jésus? Et en particulier, ça se voit dans notre attitude envers ses paroles. Alors pourquoi envers ses paroles? Parce que notre attitude envers ses paroles révèle notre attachement ou non à la vérité. Si on aime ses paroles, c'est bon signe. Mais si on les rejette, ce n'est pas un simple rejet. Mais selon Jésus, ça révèle, ça démasque un cœur qui est farouchement hostile à Dieu. Et en fait, ça dévoile une paternité horrible. Jésus dit au verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Jésus ne mâche pas ses mots, n'est-ce pas? Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire quelque chose de plus fort à quelqu'un. Cette semaine, nous avons été les témoins, encore une fois, d'une décapitation barbare. Les hommes politiques ont parlé d'un acte atroce, barbare, horrible. Mais ils n'ont pas parlé de la paternité spirituelle du meurtrier. Ils n'ont pas osé dire... Vous avez pour père le diable. Je pense que s'il avait dit quelque chose comme ça, serait jeté un froid dans les médias. Jésus, en revanche, ne mâche pas ses mots. Il diagnostique la paternité spirituelle de nos actes. L'arrière-plan de ce que Jésus dit est sans aucun doute Genèse chapitre 3. C'est au début de la Bible, c'est le récit d'Adam et Ève. Récit du tentateur dans le jardin d'Éden. Le diable, le tentateur, était un meurtrier. Il voulait mettre à mort l'homme en le poussant à désobéir à Dieu. Et pour parvenir à ses fins, il a déployé son langage à lui, le mensonge. Dans la Genèse, on lit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il s'agissait d'un mensonge. Un mensonge flagrant. Une distorsion de la parole de Dieu. Et l'homme, dans sa fierté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi, dans sa folie aussi, il a choisi de croire ce mensonge à la place de la vérité, à la place de la parole de Dieu. Et en faisant ça, il est devenu l'esclave du mensonge. Futilement, il cherche à changer la réalité que Dieu a créée. Il essaye de décréter lui-même ce qui est vrai, ce qui est faux. Il essaye de décréter ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il le fait à la place de Dieu. Il remplace la parole de Dieu, la vérité, avec un mensonge. Je pense qu'on vit une société qui le fait de plus en plus ouvertement. On déclare bon ce que Dieu a déclaré mauvais. On déclare mauvais ce que Dieu a déclaré bon. La liberté est chérie par notre société, mais la liberté qu'elle met en avant avant tout, c'est la liberté sexuelle, la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et on justifie ces pratiques en parlant de la liberté individuelle, ou en parlant de notre droit de disposer de notre corps comme on veut, de disposer du corps de nos enfants par incarnés comme on veut, ou en parlant de notre droit à l'égalité. En fait, on fait ça dans tous les domaines de la vie. On établit notre vérité à la place de la sienne. Et vous savez, on est un peu comme accro à ces mensonges. Même quand ces mensonges nous font du mal, même lorsqu'on voit des dégâts, on ne peut pas les renier, ces mensonges. Parce que si on devait les renier, on serait en train de reconnaître que Dieu a raison. Et que Dieu a le droit de régner sur nos vies. Est-ce que vous voyez ça dans ce que Jésus dit au verset 45? « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » On ne veut pas de la vérité, car on ne veut pas de lui. On ne veut pas de celui qui a le droit de régner sur nos vies, le droit de nous dire comment vivre. Et c'est pour ça qu'on est accro à nos mensonges. Je pense que tout ça est vraiment très dur à entendre pour l'homme. C'est dur ici pour le peuple de Dieu, les Israélites au temps de Jésus. C'est dur d'entendre que l'homme, finalement, n'est pas neutre. Son intelligence n'est pas neutre. Si on devait aller voir les étudiants à la fac et leur dire que non, l'intelligence n'est pas neutre, ils ne raisonnent pas de manière saine, que le choix moral de ne pas accepter la seigneurie de Dieu fait que leur manière de raisonner et pervertir, ça ne passerait pas comme une lettre à la poste, ce message. On ne veut pas de l'ingérence de Dieu dans nos vies. Et ça façonne notre manière de penser, notre manière de voir le monde. Et ça nous empêche d'aimer Jésus. Ça nous empêche d'aimer ses paroles, d'aimer la vérité. Ça nous empêche tellement que Jésus dit au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » C'est comme les Juifs de l'époque de Jésus. Nous, on peut écouter quand même la parole de Jésus de manière littérale, mais en fait, on ne peut pas la recevoir. Pourquoi? Parce que dans le fond, on n'en veut pas. On préfère le mensonge. C'est parce que nous sommes des esclaves du péché, nous sommes des esclaves du mensonge. Et finalement, ça montre notre paternité. Nous ne sommes pas de Dieu. Notre père, c'est le père des mensonges, le diable. Est-ce que vous voyez comment Jésus nous montre à quel point nous sommes perdus? L'homme n'est vraiment pas libre. Certes, il s'offusque à l'offre de la liberté, mais il s'en offusque parce qu'il ne veut pas reconnaître à quel point il est un esclave. Il ne veut pas reconnaître sa vraie paternité. Et si nous ne comprenons pas la vraie nature de l'homme, si on ne comprend pas à quel point nous étions esclaves, on ne va jamais être rempli de gratitude envers Dieu. Nous n'allons jamais être remplis d'humilité. Orgueilleusement, nous allons penser que nous pouvons contribuer à notre salut ou que nous avons contribué à notre salut. Mais l'esclave ne se libère pas. Et un enfant du diable est l'esclave de ses mensonges. Il ne peut même pas croire la vérité par lui-même. On l'a vu au chapitre 6, on l'a vu lorsqu'on l'a lu, on l'a fait il y a quelques années. L'homme n'arrive à rien. Il n'en est pas capable. Et si nous ne réalisons pas ces choses, je pense qu'on va être frustré dans notre annonce de l'évangile lorsqu'on rencontre des refus. Lorsque nous essayons de raisonner avec nos amis, lorsqu'on essaye de leur montrer que la foi chrétienne est vraiment raisonnable, on va finalement penser que c'est notre faute, on n'est pas à la hauteur, on n'arrive pas à expliquer bien les choses, on n'est pas assez intelligent. Mais non, on doit être lucide sur le fait que chaque homme, chaque femme, chaque enfant est finalement un esclave du péché. Même un enfant du diable, un enfant des mensonges. Alors, mais comment s'en sortir? Nous sommes à notre deuxième point. Jésus parle quand même de la liberté dans ce passage. Il y a une autre paternité, celle de la liberté. Jésus en parle au verset 31 et 32. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Mais je pense qu'il y a un vrai dilemme dans ce passage. Nous venons de dire que l'homme est un esclave et il ne peut même pas écouter la parole de Jésus. Alors comment est-ce qu'il va s'en sortir? Comment est-ce qu'il peut venir à Jésus? Comment est-ce qu'il peut demeurer dans ses paroles s'il ne peut même pas écouter ses paroles? Est-ce que vous voyez un peu ce dilemme? Et dans un sens, ce passage ne résout pas... ne résout pas ce dilemme. Nous savons du contexte du chapitre 6 que, comme Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi, Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Un peu plus loin au chapitre 6, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Au chapitre 3, on a vu que pour entrer dans le royaume, il faut qu'on soit né de nouveau. Nous, en fait, on ne peut pas le faire. Il n'y a que l'Esprit qui peut faire ça. Au chapitre 9, on va le voir dans quelques semaines, Jésus guérit un homme né aveugle. Il n'y a que Dieu qui peut lui faire voir. Et par toutes ces choses, Jésus nous montre qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce dilemme. Finalement, tout ça dépend de Dieu. Tout ça dépend de son œuvre souveraine. Et c'est vrai, ça nous dépasse un peu. Mais si en effet, vous entendez les paroles de Jésus, si en effet, par la grâce de Dieu, vous avez mis votre confiance en Jésus, en fait, c'est parce que le Père vous a attiré à Jésus. C'est parce qu'il vous a fait naître de nouveau. Alors, un enfant ne peut pas expliquer pourquoi il a été né dans une famille en particulier. Non, cet enfant est juste là. Et d'une manière un peu similaire, ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, mais c'est Dieu qui nous a attirés vers son Fils. Au lieu de rejeter sa parole, sa bienveillance nous a conduits à lui. Et en Jésus, nous avons goûté à cette liberté. Ce n'est pas une liberté libertaire où on se livre à tous nos désirs un peu malsains. Ça, ce n'est pas une liberté. En fait, ça, c'est un esclavage. En fait, c'est plutôt une liberté, la liberté d'un nouveau cœur. Et nous le voyons dans ce passage. Parce que celui qui a été affranchi par Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il aime Jésus. Et du coup, il aime le Père qui a envoyé Jésus. Celui qui est affranchi, qu'est-ce qu'il fait? Il aime les paroles de Jésus. Il aime la vérité. Il aime les paroles de Dieu parce qu'elles sont celles de son Père qu'il aime. En effet, c'est une liberté familiale. Nous voyons au verset 35 et 36 cette image d'une émancipation, une libération. Si nous, on est esclaves, il a fallu que le fils de la maison vienne. Le fils qui est toujours le fils. Et Jésus est le fils par excellence. Il n'y a que lui qui peut nous libérer. Bon, ce passage ne l'explique pas, mais l'œuvre qui rend cette émancipation possible, c'est la croix. C'est là où Jésus prend la peine que notre haine à l'égard de Dieu mérite. Et du coup, si nous nous appuyons non pas sur nous-mêmes, mais sur lui, sur le Fils obéissant, en fait, nous sommes transportés dans la maison du Père, en Christ, cachés en lui, revêtus de sa justice. Nous sommes aussi en lui des enfants parfaitement acceptables à Dieu. On va voir ce thème de l'adoption de plus en plus, de manière plus claire, plus loin dans cet évangile. Cette liberté, nous le voyons au verset 31 et 32, est liée à Jésus lui-même. C'est une question de demeurer en ses paroles, en son enseignement. C'est en la cachant dans nos cœurs, en la mettant en pratique. C'est comme ça que nous connaissons la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rend libres. Et plus loin dans cet évangile, Jésus va dire qu'il est lui-même, de manière personnifiée, qu'il est lui-même la vérité. Il est la vérité, le chemin de la vie. Donc c'est en suivant Jésus, si en nous mettant à sa suite, que nous faisons sa connaissance, que nous le connaissons de plus en plus. Et c'est en connaissant Jésus de plus en plus que nous sommes affranchis, que nous connaissons cette liberté. Et c'est la liberté des enfants de Dieu. C'est la liberté d'appeler Dieu notre Père. C'est la liberté de connaître l'amour du Père, son approbation. Non pas parce que nous méritons ces choses, loin de là, mais parce que Jésus, le Fils, mérite ces choses. Et nous sommes en lui. Nous sommes rendus libres en lui. Et cette connaissance-là, cette connaissance de Jésus, en Jésus, cette connaissance du Père, est vraiment libératrice. Enfin, nous sommes à lui. Son amour ne dépend pas de notre performance, mais de celle de Jésus. Mais même dans l'épreuve, nous savons que notre bon Père Céleste fait concourir toutes choses pour notre bien utile. On a un Père qui nous aime. En Jésus le Fils, nous avons un Père qui nous protège. Aujourd'hui, demain, après-demain, pour toujours. Alors, si on pense à notre ancien état d'esclave spirituel, à l'état d'enfant du diable, le fait que Dieu est intervenu pour nous donner un nouveau cœur, un cœur qui aime Jésus, qui aime ses paroles. En fait, tout ça devrait nous rendre profondément humbles, parce que nous n'y étions pour rien. C'est Dieu qui l'a fait. Et on peut dire merci Seigneur. Bon, si ce matin vous ne savez pas où vous en êtes exactement par rapport à la foi, alors c'est vrai, cet enseignement de Jésus est très dur, n'est-ce pas? Mais en même temps, il est bienveillant. Il est bienveillant parce que Jésus nous invite tous à venir à lui. Il nous invite tous à écouter ses paroles, à mettre notre confiance en lui. L'invitation est pour nous tous. Et c'est une invitation de grâce. On l'a vu il y a deux semaines, je pense, dans le passage précédent. Jésus a crié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif de liberté? Est-ce que vous avez soif d'aimer Jésus? D'aimer ses paroles, d'aimer Dieu? Est-ce que je peux vous inviter à ne pas tarder, mais à venir à Jésus? Parce que c'est en venant à lui, c'est en écoutant ses paroles, c'est en demeurant dans ses paroles, qu'on fait sa connaissance. Et cette connaissance nous rend libre. Nous goûtons à cette liberté extraordinaire, où on est au Fils, en le Fils, où on est dans la maison du Père. Et j'aimerais vous inviter simplement à vous adresser à Dieu dans la prière et de lui demander de vous libérer, de vous pardonner et de vous aider à écouter les paroles de Jésus. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous sommes ébahis par ta grâce. En effet, de manière naturelle, sans toi, la suite de la chute, on est des addicts au mensonge, on est des esclaves du péché. Naturellement, on te déteste. Mais par grâce, tu nous as attirés à Jésus par ses paroles. Nous ne savons pas comment tu l'as fait. C'est un miracle, c'est le miracle de la grâce. Et nous voulons te remercier du fond de nos cœurs. Nous voulons te remercier pour cette liberté en Jésus, la liberté du pardon, la liberté de l'adoption. Merci de ce que nous avons, cette liberté de t'appeler Père. Merci pour le Saint-Esprit qui crie en nous « Abba Père ». Et Père, nous voulons te remettre tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Et nous voulons te demander dans ta grâce et pour ta gloire de les attirer vers Jésus. Père, ce n'est pas nous qui pouvons produire cette nouvelle naissance, il n'y a que toi qui peux le faire. Et nous prions que tu le fasses pour ta gloire, pour que ton nom soit honoré. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.